André Dhotel, D-H-O accent circonflexe T-E-L, Le pays où l'on n'arrive jamais. Édition J'ai lu, 1992. La première édition de cet ouvrage est de 1955. L'histoire se passe dans les Ardennes, dont l'auteur est originaire. C'est une vaste forêt dont le territoire s'étend à cheval sur la France et la Belgique. Le plateau sur lequel se trouve la forêt est entaillé par une vallée profonde, celle de la Meuse. En 1950, où se passe l'histoire, la Deuxième Guerre mondiale, est encore très proche, et notamment le souvenir de l'offensive allemande de mai 1940 à travers les Ardennes et de l'exode, la fuite en masse de la population civile belge et française, devant les troupes allemandes. Chapitre 1er, la jeunesse de Gaspard. Il y a dans le même pays plusieurs mondes véritablement. Si l'on explore les Ardennes, ce n'est pas une forêt que l'on découvre, mais 1000 forêts. Dans les contrées situées au nord, jusqu'au Rhin ou jusqu'au port d'Anvers, ce sont des centaines de collines et de plaines chargées de richesses, et l'on peut voir aussi les eaux immenses des canaux, des fleuves, des bras de mer, tandis qu'au cœur des villes, sur des places souvent désertes, s'élèvent les beffrois qui inspirent autant de terreur que d'admiration. Très loin de ces splendeurs, Lominval, L-O-M-I-N-V-A-L, est un village qui prétend au titre de bourg. On y trouve un bureau de poste, un notaire, un médecin, et un hôtel pour les touristes, l'hôtel du Grand Cerf, qui a finalement donné le ton à toute l'agglomération. Il n'y avait là, naguère, qu'un groupe de maisons rurales isolées dans une enclave de la forêt des Ardennes. Puis des gens de la ville y sont venus passer leurs vacances, des villas se sont construites, et ainsi a pris naissance une station provinciale qui garda toujours un caractère sérieux. Lominval est situé en bordure d'un ruisseau, la Flouve, F-L-O-U-V-E, dont les détours baignent des prairies bornées par l'enceinte des bois. Il y règne en toute saison un profond silence, et l'on ignore, plus qu'ailleurs, le monde varié qui se déploie jusqu'à la mer du Nord. Gaspard Fontarel, F-O-N-T-A-R-E-2-L-E, naquit à l'hôtel du Grand Cerf. Cette vaste auberge portait une enseigne dorée et ses fenêtres s'ornaient de géranium ou de balsamine selon la saison. Elle était tenue par la tante de Gaspard, mademoiselle Gabrielle Berlicot, B-E-R-L-I-C-A-U-T, femme habile et intraitable. La naissance de Gaspard Fontarel suscita maints commentaires. Les parents de l'enfant étaient marchands forains. Ils vendaient des cravates et personne n'aurait songé à leur en faire le reproche si Madame Fontarel ne s'était avisée par surcroît de dire la bonne aventure sur les marchés. Ils avaient habité Lominval autrefois, mais depuis que Madame Fontarel s'était découvert une vocation de voyante, ils avaient quitté avec leurs deux filles un pays devenu hostile et louèrent des mansardes à Mézières. M-E accent aigu, Z-I-E, accent grave, R-E-S. En vérité, ils résidèrent aussi rarement à Mézières que naguère à Lominval. Ils parcouraient sans cesse la région. Ils trouvaient asile dans de misérables chambres. On pouvait les considérer comme des gueux. Et mademoiselle Berlicot, la propre sœur de Madame Fontarel, disait qu'il ne manquait à ces gens qu'une roulotte pour mettre un comble à leur manque de tenue. Lorsque Gabriel Berlicot parvint à convaincre Charles Fontarel, son beau-frère, qu'il fallait à tout prix épargner à Gaspard, le dernier-né des Fontarel, la vie désordonnée à laquelle étaient déjà condamnées ses deux petites filles, tout Lominval approuva cette décision. Gaspard naquit donc au Grand Cerf. Il fut entendu qu'il resterait à Lominval et que sa tante s'occuperait de son éducation. On se souvenait qu'un aïeul de Gaspard avait été le maire de Lominval et un autre plus lointain, lieutenant de louveterie. De l'avis de tous, il était déplaisant que les Fontarelles eussent dégénéré dans le vagabondage, et l'on fut heureux de prédire que Gaspard, grâce au conseil de Mademoiselle Berlicot, réhabiliterait une des plus vieilles familles du pays. Le jour du baptême, on voulut oublier que la mère était cartomancienne, que le père s'exprimait dans un langage douteux et que les deux filles faisaient les folles. Comme tout ce monde se disposait à quitter Lominval aussitôt après les réjouissances, la tante sut garder une ferme patience. Elle n'eut de regard que pour son neveu, qui avait déjà, en ce très jeune âge, une expression de dignité. Pourvu que les parents soient loin, nous n'aurons rien à craindre, disait sur un ton tranchant Gabriel Berlicot. Cependant, en ce jour, survint une première aventure mémorable à laquelle on aurait eu tort de ne pas attribuer d'importance, comme le montrera la suite de cette histoire. Dans l'après-midi, alors que les invités terminaient le repas de fête, au milieu de la grande salle de l'auberge, la tante alla prendre Gaspard dans son berceau pour le faire participer au toast que l'on portait en son honneur. « Non, ma sœur !» s'écria-t-elle, devançant Madame Fontarelle la maman. « Non, ma sœur, ce n'est pas à vous, mais à moi, de présenter ce garçon à la compagnie qui forme aujourd'hui des vœux pour son avenir. Ne suis-je pas aussi sa marraine ?» Sur ces entrefaites, Gabriel Berlicot remarqua qu'il manquait deux épingles dans l'ajustement du bébé. Pour éviter de laisser l'enfant à la mère, tandis qu'elle se mettait en quête d'épingles au fond d'un tiroir, elle posa Gaspard sur le plateau d'une vaste balance qui ornait le buffet. Sur l'autre plateau, il y avait un chat. Gaspard était d'un poids raisonnable. La balance pencha en sa faveur avec brusquerie, de telle façon que le chat, surpris, sembla projeté hors du plateau qu'il occupait et s'élança vers le haut du vaisselier. L'animal causa d'abord un grand dégât parmi les assiettes alignées, puis, de nouveau saisi par la terreur, il ne fit qu'un bond jusqu'au milieu de la table autour de laquelle étaient assemblés les convives. Il semblait que la panique du chat se communiquait à tous et personne n'osa se saisir de l'animal qui, toute griffe dehors, sautait à travers la table renversant l'huilier et les bouteilles de vin. Enfin, il s'agrippa au corsage de la femme du notaire et lui laboura le visage. Le notaire et son voisin, le conseiller Perrin, qui s'efforcèrent de la délivrer, eurent eux-mêmes les mains cruellement déchirées. La bête se sauva par la fenêtre, tandis que Gabriel Berlicot apportait des linges pour panser les convives. Le désarroi passé, la compagnie se tourna vers Gaspard, qui demeurait paisiblement couché en travers du plateau de la balance. Gaspard n'était nullement responsable. Toutefois, comme on devait le répéter souvent, s'il n'avait pas été là, rien ne serait arrivé. On ne pouvait pas considérer le visage déchiré de la notairesse sans y voir la marque d'une fatalité dont Gaspard semblait s'être fait complice. Au moment où, dans le silence général, Madame Fontarelle allait reprendre son enfant, on entendit un coup de tonnerre lointain. Et presque aussitôt, il y eut dans le ciel de longs cris qui étaient ceux d'une troupe de grues remontant vers le nord. On était en mars, et les orages sont rares à cette époque. Quant aux grues, leur passage n'avait rien d'étonnant, mais on suivit longtemps des yeux dans le haut de la grande fenêtre leur vol en forme d'un V dont la branche était d'une longueur démesurée. Gabriel Berlicot arracha Gaspard au bras de sa mère et, le montrant à tous, déclara que malgré les circonstances, on boirait en son honneur, car elle voulait, expliqua-t-elle, porter un défi aux mauvaises influences qui rôdaient autour de cet enfant innocent. La notairesse leva aussitôt son verre et elle fut la première à souhaiter au jeune Gaspard de porter haut le nom des Fontarelles en dépit des difficultés et à la faveur des heureuses dispositions que saurait prendre Gabriel Berlicot. Un autre roulement de tonnerre ponctua ce discours, et l'on ne sut s'il fallait l'interpréter comme un bon ou un mauvais présage. On se sépara assez rapidement. La suite des jours, et même celle des années, n'effaça pas le souvenir de ce baptême. Cependant, jusqu'à ce que Gaspard fût en âge d'aller à l'école, on ne remarqua rien d'étrange, ni à l'hôtel du Grand Cerf, ni à l'Hominval. Les parents de Gaspard venaient de temps à autre voir leur fils, et ils repartaient, apparemment joyeux de poursuivre une vie difficile, pourvu qu'elle fût épargnée à Gaspard. Les deux sœurs de Gaspard menaient grand bruit pendant un jour dans l'hôtel Berlicot, puis, dès qu'elles s'étaient éloignées avec leurs parents, tout rentrait dans le grand silence de l'Hominval. De nouveau, le calme des prairies pénétrait jusqu'au fond de la cuisine et l'on entendait bruire la forêt sous les profondeurs du ciel. Les murs répercutaient longuement les pas des habitants qui vaquaient à leurs occupations éternelles. Lorsque Gaspard suivit l'école et mena donc une vie publique, de nouveaux incidents se produisirent. Gaspard avait 7 ans lorsqu'il entra à l'école. Il eût mieux valu qu'il ait appris à lire un peu plus tôt, mais la tante hésitait, non sans raison, à le lancer dans le monde. Il n'y avait pas 2 semaines qu'il recevait l'enseignement de M. Dumeron, D-U-M-E-R-O-N, l'instituteur, qu'un soir, en revenant de l'école, il s'avisa de monter dans la camionnette de l'hôtel qui stationnait devant la porte. Le commis devait aller faire une course à la ville et il avait laissé la voiture sur le terre-plein. Dès que Gaspard y fut monté par derrière, la camionnette démarra. Il y a une pente très légère devant l'hôtel du Grand Cerf, on s'en aperçut bien en cette occasion. Le commis avait négligé de serrer le frein et insensiblement, le véhicule s'était mis en mouvement pour gagner la rue où une brusque déclivité dévale sur la place de l'église. On vit donc bientôt la camionnette traverser la place, tandis que Gaspard, tout étonné, demeurait assis, les jambes pendantes, à l'arrière. La voiture prit une vitesse notable en descendant le village, après quoi elle quitta la route, entra dans un pré et finalement retrouva une allée qui plongeait sur la forêt. Les gens alertés se précipitèrent. Gabriel Berlicot s'était mis à crier à tous les échos qu'il ne fallait pas s'affoler. En vérité, personne ne s'inquiéta pour Gaspard. On se l'avoua après l'aventure. La camionnette avait gagné le chantier de la Syrie, où elle avait pénétré comme une flèche. Le gardien et sa femme, qui prenaient le café dans leur baraquement, la virent arriver. Ils eurent tout juste le temps de se lever et de s'écarter. En un instant, la voiture enfonçait les panneaux de la baraque comme si ça avait été du papier, emportait la table avec la cafetière et les tasses, ainsi qu'un vase garni de fleurs qui y était posé. Après avoir défoncé les panneaux du fond, elle allait enfin piquer du nez contre un tas de planches où le capot fut fracassé. Le gardien et sa femme, saisis d'horreur, se précipitèrent et ils furent encore plus bouleversés quand ils constatèrent 2 faits remarquables. D'abord, ce fut Gaspard qui descendit de la camionnette en leur souhaitant poliment le bonsoir. Puis la femme du gardien, comme éblouie par une vision, indiquait à son mari le haut du tas de planches. Le vase était juché sur les planches avec ses roses parfaitement disposées, alors que la cafetière, les tasses et la table, réduites en miettes pour leur part, avaient sauté par-dessus le tas. La première démarche du gardien fut d'aller chercher le vase de fleurs et de vérifier qu'il n'avait pas rêvé. Ce fut après seulement qu'il se tourna vers Gaspard et qu'il lui demanda s'il éprouvait quelque mal et comment la chose avait pu arriver. Déjà, les gens du village accouraient au fond de l'allée. Ils n'eurent rien d'autre à faire que de contempler le désastre et de s'étonner de voir le gardien qui tenait des roses à la main et qui bavardait familièrement avec Gaspard. Certes, si le commis avait serré son frein, rien ne serait arrivé. Mais pourquoi Gaspard avait-il choisi ce moment pour monter dans la camionnette? Seul Gabriel Berlicot pouvait savoir de combien de secrets mécontes son neveu avait déjà été la cause première. Vaisselle cassée, viande brûlée, soupirs renversés, portes claquées, dont le choc détraquait les pendules, fuite des lapins entre les jambes de Gaspard lorsqu'il leur portait de l'herbe, tonneaux dont la cannelle restait ouverte par sa faute et qui répandaient le trésor de leur vin. Il fallait toujours que Gaspard se trouvât là, dans l'instant même où tout allait de travers. Gabriel Berlicot, après l'aventure de la camionnette, laissa déborder son cœur et confia à tout venant ses craintes et ses soucis. Lorsque Gaspard eut 10 ans, il fut le héros d'un nouveau drame manqué. C'était un jeudi d'automne et il s'était sauvé pour aller cueillir des champignons dans le bois du voisin. Il avait jeté sur son épaule un sac en poils de chevreuil. La feuille n'était pas tombée et il arriva qu'un chasseur le prit véritablement pour un chevreuil dans la confusion du taillis. Le chasseur était M. Stey, S-T-E-I-2-L-E, un avocat, hôte du notaire. Il chassait en compagnie du notaire et de 2 amis autour d'une vaste enceinte. On avait lancé les chiens sans savoir que Gaspard avait pénétré dans l'enceinte, et lorsque l'avocat aperçut soudain le sac de Gaspard, il épaula et tira. Par bonheur, au même instant, le chasseur, saisi d'un doute, avait relevé son arme. Comme il pressait sur la détente, il eut l'idée qu'il était impossible qu'un chevreuil se tînt immobile alors que les chiens jetaient déjà leurs abois. Et ce pressentiment le fit trembler juste assez pour dévier le coup. La balle effleura la tête de Gaspard, où elle traça un léger sillon sanglant. Après quoi, elle fila droit sur le village et pénétra par une fenêtre ouverte de la petite mairie pour aller fracasser le buste en plâtre de la République posé sur une console. On retrouva la balle dans le mur et le charron qui passait vers le bas du village prétendit dans la suite avoir entendu siffler cette balle à ses oreilles. Il arrive qu'un chasseur tire au jugé sur un soupçon de poil lorsque les bois ne sont pas encore éclaircis. L'avocat n'aurait pas dû être posté à cet endroit, dans un bois si proche de l'agglomération et avec une arme qui avait une trop longue portée. On discuta l'affaire, mais comme pour l'aventure de la camionnette, on fut horrifié par le danger qu'avait couru Gaspard autant que par le résultat dérisoire de l'accident. Un buste en plâtre fracassé. C'était une belle pièce à inscrire au tableau d'un chasseur. Il fallait bien finalement redire encore que Gaspard n'aurait pas dû se trouver là et que c'était inconcevable qu'il traversât les pires dangers avec cet air d'ignorance qui semblait moquerie. Dans les 2 années qui suivirent, il se produisit d'autres événements que je ne rapporte pas, car ils sont moins significatifs. La dernière aventure, dont il fut beaucoup parlé, se passa lorsque Gaspard eut ses 12 ans. Cette dernière aventure frappa les esprits de façon singulière. Gaspard, qui se promenait seul autour du village, un soir après l'école, fut surpris par un orage que personne n'avait vu venir, comme il arrive souvent. Il se réfugia sous un gros poirier dont 2 maîtresses branches étaient mortes. La foudre tomba sur le poirier et l'une de ses branches, qui à elle seule avait l'importance d'un arbre de taille moyenne, prit feu et une rafale énorme l'emporta à 50 pas de là, juste sur le hangar qui abritait la pompe à incendie. On retrouva Gaspard inanimé au pied de l'arbre. Ses cheveux blonds avaient roussi. Ce fut la seule trace qu'il garda. Il ne tarda pas à revenir à lui et se montra tout à fait dispo 1 heure plus tard. De nouveau, la crainte qu'on avait pu ressentir fut mêlée d'exaspération. Il était impossible, en effet, de maîtriser le feu qui avait pris dans le hangar de la pompe, et il fallut se résigner à voir cette pompe transformée en tas de ferraille. Comment incriminer Gaspard? On n'y songea pas. Dès le lendemain, on s'occupait de faire venir une nouvelle pompe à incendie, et l'on mit une sorte de rage à proclamer que Gaspard manquait de grâce et que son air aimable n'était que faux semblant. Il y a des enfants qui portent partout avec eux une vertu efficace. Les difficultés fondent en leur présence, tandis que d'autres amènent toutes sortes de complications sans même qu'ils aient à bouger un doigt. Un maladroit, un importun que ce Gaspard? Bien autre chose encore, prétendit-on bientôt, quoiqu'on ne sût rien préciser. On murmurait qu'il y avait dans de tels incidents une sorte de malice cachée qui échappait à Gaspard lui-même, mais qu'il avait en lui. Gaspard était un beau gamin blond. Il mettait du soin à son travail et ne demandait qu'à rendre service à ses camarades comme à sa tante. Mais personne ne voulait de ses services. On savait avec quelle facilité il vous faisait renverser un encrier, démolir une pile de livres et casser vos plumes. Jamais lui-même n'était directement responsable, mais il valait mieux se tenir à distance. Gaspard fut entouré d'une méfiance toujours plus grande. Sans cesse on l'avait à l'œil, et il ne connut guère en somme ce qu'il y a de meilleur dans la vie de l'enfance et dans toute vie. Le plaisir de parler à cœur ouvert et d'entendre parler à cœur ouvert. Ses parents le jugeaient parfaitement comblé et ne se souciaient pas dans leur court séjour des erreurs qu'on lui reprochait. C'était comme si le monde se cachait à ses yeux. En classe, Gaspard était rarement interrogé. Il eut de plus en plus l'assurance que rien ne le concernait et que toutes ces démarches seraient à jamais déplacées. Je vous ai dit que Lominval était un village fermé, assez austère, et que la vie s'y poursuivait dans la plus grande routine. On se souciait peu des choses du dehors et des pays situés plus loin que la forêt et qui ont tant de variété et de beauté. Cependant, parmi les habitants de Lominval, Gaspard devint encore plus ignorant des choses du monde. Lorsqu'il quitta l'école à 14 ans, Gabriel Berlicot l'occupa à cirer les parquets et à balayer la cour. Bien qu'il eût montré une intelligence assez vive, la tante se désintéressa de l'avenir de Gaspard. Si elle le gardait chez elle pour faire son devoir, comme elle le proclamait, elle avait toutefois renoncé à ses rêves. Gaspard, de son côté, ignorait même qu'il eût été possible de concevoir pour lui quelque ambition. Son seul désir était de passer inaperçu. Il s'était d'ailleurs attaché à la maison et les plus modestes choses du village faisaient partie de lui comme ses mains ou ses yeux. Ses parents vinrent de plus en plus rarement. Ses sœurs avaient une vingtaine d'années. Elles s'étaient mariées avec des forains et elles se souciaient peu de leurs frères, qui menait une vie trop différente de la leur. Beaucoup d'enfants se vantent lorsqu'il leur survient quelque semblant d'aventure. Gaspard avait eu sa bonne part d'incidents dont il aurait pu se dire le héros. Mais comme on l'avait éminemment dédaigné en ces occasions, il avait finalement acquis une timidité douce et farouche. Il travaillait du matin au soir, et quelquefois tard dans la nuit. Il y a bien des occupations dans un hôtel. Toutefois, pendant la bonne saison, Gaspard se réservait toujours une heure vers la fin de la journée ou après les repas du soir pour faire une promenade. Sa tante lui laissait cette liberté car elle devait reconnaître qu'il abattait une besogne qu'un homme n'aurait peut-être pas accomplie. Il choisissait pour sortir les moments où il risquait peu de rencontrer les voisins et la plupart du temps, il suivait le sentier qui longe les jardins en dehors du village. Il descendait d'abord sur la place de l'église qu'il contournait, puis il prenait une ruelle entre les murs des vieilles maisons où personne ne passait plus parce qu'elle était encombrée de bardanes et d'orties. À l'issue de la ruelle, il y avait un sentier entre les grillages des jardins et la clôture des parcs. Ce sentier lui-même était à peine frayé. Il y poussait des ronces qui barraient le passage. Gaspard traversait l'Hironce et se trouvait ainsi à l'abri des regards. Dans les premiers temps qu'il prit l'habitude de faire cette promenade, il s'asseyait entre quelques coins pour regarder les champs. Il découvrait les prairies vallonnées et dans la perspective de ces vallons, il apercevait les cimes de la forêt. En été, on voyait s'envoler selon le vent les graines de chardon qui montaient au ciel ou fuyaient à travers les herbes. Des oiseaux venaient se percher sur les fils des parcs. Il ne connaissait pas leur nom. Dans la suite, Gaspard s'avisa d'examiner les jardins. À l'abri des grillages où s'entrelaçaient les liserons, il put considérer les femmes venues pour récolter leurs légumes ou bien il écoutait les conversations qui se tenaient dans les maisons dont les fenêtres étaient ouvertes. Ce n'était pas curiosité. Si par hasard des gens parlaient de leurs affaires, il s'éloignait aussitôt parce que l'indiscrétion le gênait. Ce qui l'enchantait, c'était le timbre des voix qui sonnait doucement dans la soirée. Il y avait la voix basse du bedeau, la voix comme une chanson de la jeune boulangère et bien d'autres encore, tantôt mélancoliques, tantôt joyeuses. Cependant, cette contemplation paisible et enfantine prenait peu à peu en lui la forme d'une prière et de temps à autre, il arrivait à Gaspard de prier dans sa solitude. Alors il sentait autour de lui une sorte de vigueur sauvage. Le silence de l'Homainval était si profond qu'une simple parole, par exemple, pouvait prendre une valeur inattendue et avoir d'exceptionnelles conséquences. Une parole, ou plutôt des mots, certains mots que l'on n'avait pas coutume d'entendre ici et qui pourtant étaient prononcés de temps à autre. Il faut bien le croire. Le mot « canal », le mot « beffroi », le mot « mer », par exemple. La boulangère avait un cousin en Belgique. Le frère du bedeau était douanier dans un port. Gaspard s'intéressait aux mots, pour eux-mêmes. Il s'imaginait les canaux qu'il n'avait jamais vus, des villes avec leurs tours et la mer immense. Il ne formait nullement le désir de quitter l'Homainval pour aller visiter des lieux que hantaient familièrement le cousin de la boulangère et le frère du bedeau. Mais comme il était sans expérience, il se figurait que des événements pouvaient venir de je ne sais quelles régions extraordinaires qu'on gardait secrètes et dont personne n'aurait vraiment pu rien dire. Il avait dans l'idée qu'il existait des gens et même des peuples qui n'avaient rien de commun avec l'humanité telle qu'il la connaissait d'après les habitants de l'Homainval. Gaspard était trop occupé par les nécessités de son travail pour attacher importance à des rêveries qui ne faisaient que traverser son esprit. Cependant, il se persuadait peu à peu qu'un beau jour, au cours de quelques promenades, il surprendrait cette parole qui lui ferait découvrir tout ce qu'il ignorait et même des choses dont personne n'avait jamais eu l'idée. Or, il arriva qu'un soir, il entendit quelques mots qui devaient changer sa vie. Fin de la première face de la première cassette, André Dautel, Le pays où l'on n'arrive jamais, page 17.